commencer par un petit débat, deux, trois questions en référence aux deux exposés. Et on se donne pas plus de 20 minutes. Herman, tu peux les donner ?
Oui, sinon j'ai une voix là, sinon j'ai une voix qui porte.
Par rapport à la donc, intervention de Benjamin, particulièrement concise, je prends ta dernière phrase, enfin, où tu parles donc, des deux notions des réformes et donc de la révolution, donc deux choses. On n'a pas une définition donc, précise, mais on a en tête que ce sont deux choses quand même en termes de rupture, en termes de rapidité, donc des changements, etc. Sont assez différents. Donc, je voulais savoir un peu plus, comment suivre en même temps les deux objectifs, donc de révolution et de réforme. Donc, et la première question que je voulais poser. C'était bien sûr sur le titre et sur la référence au livre de Stéphane Hessel que tu as cité et qui était donc sur la réaction de Stéphane Hessel qui est publié notamment entre autres par un courrier récent là au Nouvel Obs ou mais aussi à d'autres endroits où Stéphane Hessel pose la question sur la position du mouvement à l'égard des élections et notamment pour ce qui concerne la France donc en 2012, qui est quand même une élection très particulière, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on vote pour un président qui a un statut de président, et donc cette relation tout à fait particulière en Europe, hein, pas dans le monde, mais en tout cas en Europe, qu'il n'y a qu'en France, entre donc des citoyens et une personne, voilà, un homme, peut-être aussi un jour une femme, qui représente donc le peuple. Et comment vous posez la question telle que Stéphane Hessel qui l'évoque et qui dit clairement, pour moi c'est un critère très important le mouvement peut se revendiquer de m'en livre indignément. Voilà, donc deux questions. J'en ai d'autres, mais je laisse la place aux autres.
Non. Je vais essayer de répondre à ces deux questions de manière la plus concise possible, parce que c'est des portes ouvertes assez énormes. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est ni un mouvement révolutionnaire, ni un mouvement réformiste ? Donc, j'ai dit parce que on est une tentative de construire et d'inventer quelque chose. Lorsqu'on fait l'an 01, on va dire, on arrête tout, on recommence. Hein, on ne sait pas ce qu'on recommence. On ne sait pas ce qui va déboucher et on ne sait pas quelles vont être les modalités. Est-ce que les modalités, par exemple, ça va être un mouvement d'abstention massif en disant, de toute façon, vous ne nous représentez pas, on fait une crise de légitimité, on va se déclarer nous-mêmes assemblée constituante, on fera nous-mêmes les élections qu'on veut. Ça peut être ça. Est-ce que ce sera, on bloque le Parlement et on dit, vous n'irez plus voter vos lois pourries, et puis, de ce fait, on crée une crise de légitimité, un soutien populaire, pourquoi pas. Est-ce que ça sera, on emballe la société et du coup, il y a un mouvement de grève générale qui nous soutient ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout vers quoi ça va déboucher, et ça va déboucher selon les pays vers des choses totalement différentes d'elles. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que ce que l'on est en train de mettre en place est nécessaire parce que nous avons une demande simple. On veut que ça change et on veut qu'on soit dans une réelle démocratie. Et on n'a pas de petit livre rouge ou de petit livre vert ou bleu ou jaune, je m'en fous de la couleur, qui nous dit « voilà comment on arrive à une réelle démocratie ». Non, on a juste une tentative qui est proposée à tous et c'est ça qui est fort. Et à mon avis, c'est pour ça que chacun d'entre nous, ici, on doit faire venir le maximum de personnes à ce mouvement. Et continuer, parce qu'il y a, dans ce que certains appellent le problème, des jeunes qui se révoltent ou des gens qui en ont marre, il y a quelque part une solution. Pour répondre à la deuxième question, moi personnellement, je vais écrire un article et je vais l'envoyer à Stéphane Hessel. Je vais le remercier d'avoir semé la graine de l'indignation. Et je vais l'inviter à se réindigner. Je vais appeler ça « Réindignez-vous, Monsieur Hessel ». Monsieur Hessel nous invite à l'indignation, dit « Il y a des choses qui sont inacceptables, et il faut absolument que nous puissions les combattre et s'engager pour que ça change. Et M. Hessel, par peur que le pire puisse arriver, c'est-à-dire que des gouvernements populistes, des gouvernements racistes puissent être élus ou réélus, dit il faut céder tout pour éviter ça. Et donc, tout, y compris le fait d'accepter qu'il y ait des gens qui mènent les mêmes politiques économiques, et donc l'invitation d'Essel à aller voter pour eux et de les légitimer. Et je pense que M. Essel a peur, et que le meilleur moyen de lutter contre la peur, c'est la raison et l'indignation. Et donc c'est ce qu'on va faire.
Moi j'aurais une question à poser sur comment inviter, continuer à inviter à la désobéissance civile, parce que moi je fais partie du collectif national pour le retrait des bas élèves, et je peux tout à fait vous rassurer sur le fait qu'on ne prenne pas de sanctions, parce que chez nous les directeurs continuent à se faire très lourdement sanctionner, ça, et ça s'intensifie même énormément en ce moment. Par contre, dans le travail de médiatisation et de popularisation de cet appel à la désobéissance civile, le CNRDE a posé des jalons tout à fait intéressants, c'est-à-dire qu'il a saisi le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, il a saisi même l'ONU par rapport au directeur, et chaque fois il a obtenu une réponse positive très intéressante. Évidemment, le gouvernement n'en a tenu aucun compte, mais ça s'est quand même su. Et ils ont même attaqué au Conseil d'État, et le Conseil d'État a quand même annulé l'acte de création de bas élèves. Alors après, ça a été récupéré par un tour de passe-passe par le gouvernement. Mais tout ça, ça a fait connaître des choses, et le CNRDE continue d'appeler au refus de ce fichage universel de tous les enfants de France et de Navarre, et continue à travers le refus du livret personnel de compétences, qui était la raison d'être de bas élèves. Il s'agit de ficher tous les mômes de 3 ans à leur entrée dans le... Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un directeur est sanctionné, les gens prennent fait et cause pour lui, ça se sait, les journaux s'en font les causes, mais ce que nous trouvons difficile, c'est tout de même que ça ne s'élargit pas autant que nous l'avions espéré. Moi, il me semble personnellement que ça tient tout de même à une espèce de retrait beaucoup des citoyens devant quelque chose qui est illégal, enfin qui la désobéissance. Il y a une espèce de malaise, et il faudrait arriver à le justifier mieux, parce que pour nous c'est tellement évident que le LPC est un truc archi dangereux, mais vraiment, et d'une très brève échéance, que nous avons du mal à comprendre pourquoi on ne convainc pas mieux les gens. Mais l'un des gros problèmes pour nous, c'est de durer. Je pense qu'il faut continuer, il ne faut pas se décourager, jusqu'à ce qu'on obtienne, parce qu'on a un objectif très clair, retrait de bas élèves et retrait du livret personnel de compétences, pour revenir sur des choses locales, comme ça s'est toujours passé très bien. On n'a pas besoin de pister les gamins. Et on s'aperçoit aussi que quand on les piste, c'est essentiellement pour trouver les décrocheurs, les futurs délinquants, les mômes qu'on va enfermer. C'est la chasse à l'enfant, quoi. Voilà. Ma question, c'est donc durer. Comment continuer à appeler à la désobéissance?
Non, mais là,
c'est ce que nous voulons.
Ce que j'adore, c'est que c'est pas une question, c'est une réponse. C'est vrai qu'il faut durer, c'est vrai qu'il faut durer, et ce que vous dites, et c'est vrai que moi je suis... Alors je ne veux pas utiliser le terme indigné, mais je trouve absolument effrayant que des gens, comme vous, ne comprennent pas qu'il faut arrêter bas élèves, que le degré de compétence doit être arrêté. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, parce que ça c'est aussi un des problèmes, c'est la dispersion de la connaissance. C'est-à-dire, quand on parle de bas élèves, par exemple, moi, souvent il y a toutes sortes de choses que je peux annoncer, parce que moi mon métier c'est chercher, donc je suis chercheur, j'ai toute ma, voilà, la grande différence, hein, j'ai toute ma journée, toute ma nuit pour faire ça. Et pour restituer ce que je peux dire, étudier, rechercher, trouver aux citoyens,
avec l'idée, donc là, par chance, on a réussi à avoir un livre qui s'est un petit peu vendu, donc on peut penser que, voilà, on diffuse une connaissance, voilà. Mais c'est vrai que c'est très jeune. Alors, je ne sais pas, est-ce, effectivement, le caractère illégal doit être un frein pour des gens. Comment se fait-il qu'on ne comprenne pas? Alors, voilà, disons, voilà, je vais m'arrêter à ça, je veux dire, vous avez donné une réponse, je pense que c'est la bonne réponse, c'est duré, c'est la réponse que les désobéisseurs, enfin que les différents... Oui, je disais, est-ce que tout le monde sait ici ce que c'est? Il y a ce côté très technique, et quand je parlais de la soft law, enfin de toutes ces techniques qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour modifier totalement, radicalement les pratiques de la démocratie, à partir de choses qui passent totalement inaperçues, sous prétexte que c'est de la technique, c'est à peu près ça la chose que depuis 20 ans j'essaie de dire à mes citoyens en leur disant, mais regardez ce qui se passe, arrêtez de remplir les fichiers informatiques. Essayez de comprendre le processus de production de ces données, à quoi ces données servent. Et je pense, d'ailleurs, à ce que je pense avoir dû mettre dans des lignes quelque part, c'est qu'il faut s'arrêter, il faut totalement faire un moratoire sur la production de chiffres. Et ce que je dis aussi, c'est ça... La faiblesse, c'est que personne ne comprend que ça puisse être un vrai argument politique. Aucun syndicat n'a repris ça. D'ailleurs, alors, non, c'est un peu compliqué. Pas en tant que motif. Alors, ça commence un petit peu. Par exemple, sur la RGPP, je vois l'université ou au CNRS, parce qu'on voit une des chances, comme j'aime bien le dire, les chercheurs, parfois, ils sont aidés par les événements. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je dis une chose, tout le monde me riait au nez, et... Quand ils voient la RGPP, les gens disent « Ah mais tiens, t'avais raison, finalement, t'avais raison. Tiens, les chiffres, ça sert à nous virer, par exemple. Bon. » Or, un des problèmes, c'est que la quantification, enfin ce que j'appelle moi la quantification de l'action publique, ça fait déjà 25 ans qu'elle est mise en œuvre. Et les gens, petit à petit, ont été moulinés dans l'idée que l'informatique avait un usage très très bon pour alléger les tâches, pour accélérer tout ça. En fait, ce que j'essaie depuis longtemps de faire, mais dans le bouquin, ce que j'essaie de montrer sur l'état des codes de l'université ou de l'hôpital, c'est quel est l'usage comptable, quel est l'usage comptable de l'informatisation? À quoi ça sert? Mais aussi, tout ce qui se passe sur la fonction publique. C'est le fait de rendre un état un peu plus performant, ça veut dire de virer les gens et d'accélérer les gains de productivité et la productivité de chaque agent par poste. Alors pour transformer l'État en entreprise, il faut qu'on en passe par des principes d'informatisation, de quantification de la production, et puis des principes de management qui vont avec. Bon, or, tout ça se met en place. En fait, ce qui est très bien avec Sarkozy, d'un certain point de vue, c'est qu'il est... c'est que beaucoup des gens qui étaient au pouvoir depuis assez longtemps, et là, je vais revenir... abonder un peu dans le sens de Benjamin, je pense que c'est assez largement partagé dans le spectre politique. L'idée que l'information, la transparence sert la démocratie, par exemple. Et ça fait quand même 20 ans que je me bats pour dire que non, c'est juste l'inverse. C'est juste la transparence qui est en train de tuer la démocratie. Et personne ne peut... Ben, voilà. Alors, par chance, ce gouvernement-là est arrivé... alors je fais un peu de politique rapidement, est arrivé à les élites de pouvoir en France en ont assez qu'on ne mette pas en œuvre ces réformes-là. Et quand je dis les élites de pouvoir, encore une fois, je dis c'est assez partagé, qu'on ait un État performant. Et ça fait 25 ans que ça dure, droite et gauche mêlée. Et par exemple, vous connaissez certainement ça, dans la querelle qu'il y avait entre Sarkozy et Chirac, quand Chirac était accusé d'être un roi fainéant, qui ne faisait pas bouger la société, en fait, l'élite de pouvoir... était exaspéré par le fait qu'il ne mettait pas en œuvre ces procédures de management dans l'État, qu'il laissait les choses en l'État parce que, bon, peu importe. Une certaine chance, c'est que Sarkozy est arrivé avec un programme extrêmement, d'application immédiate des choses qui depuis 25 ans traînent et ne sont pas mises en application. C'est une des modalités, une des formes, une des raisons de son succès auprès d'une partie des élites de pouvoir, c'est que leur revendication de mettre l'État en chiffres, il l'a mise en application vraiment. Mais tout ça, j'en fais un petit peu dans le bouquin l'historique, parce que ça fait assez longtemps que ça dure. Hein. C'est un très très bon mouvement, parce que ça doit modifier complètement la construction de l'État. Et une des étapes importantes, c'est la LOLF, mais pareil, c'est comme Baselaire, comme le livret de compétences. Qui sait ce que c'est que la LOLF? Peu de gens savent ce que c'est que la LOLF. Or, la LOLF, c'est la mise en chiffres de l'État. C'est-à-dire que simplement, il n'y a plus de ministère. Je ne sais pas si vous savez que dans le budget d'État, il n'y a plus de ministère. Il n'y a plus que des missions avec des objectifs et des indicateurs de performance. Et donc, en fait, l'ensemble de l'administration fonctionne sur ce modèle-là. Mais personne ne sait, en fait. C'est, bon, mais, voilà, donc il y a une difficulté à rendre clair des procédures techniques que les gens considèrent comme techniques. Donc il y a une part d'inégalité qui fait peur, c'est vrai. Mais plus on est nombreux, plus on se met dans l'inégalité facilement. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne voit pas très bien. Et qu'on ne sait pas très bien. Alors, base élève, ce que vous dites, c'est vrai. Mais quand on voit le processus, qui sait qu'on a été à l'ONU demander la cassation? Qui sait? Quand on dit, est-ce que vous savez ce que c'est base élève? Alors, bon, de ce point de vue-là, c'est compliqué. Du point de vue local, c'est moins compliqué, puisque des directeurs ont été, se sont associés avec des parents, disent, mais regardez ce qu'on fait à vos enfants. Je vous explique pas à vous tous ce que c'est, ce base élève, mais peut-être que vous ferez le travail après. Mais, donc, localement, on voit bien l'entraînement qui se fait autour des directeurs qui disent non. Mais les directeurs eux-mêmes sont incroyablement étonnés que tous les directeurs ne disent pas non. Et qui sont peu, et qui sont sanctionnés, et qui sont vraiment sanctionnés, comme Réfano pour les mesures Tarkos. Bon, alors, je finis avec ça. Donc, d'abord, je dois vous féliciter parce que la réponse est effectivement résister, durer. Ne jamais s'arrêter, c'est très compliqué, c'est pour ça que c'est un peu des héros, des désobéisseurs. C'est des gens qui laissent, j'aime bien cette définition de la désobéissance qui consiste à dire on laisse un problème politique ouvert à la discussion, on ne dit pas qu'il est clos une fois pour toutes. En général, ce qui se passe quand on vote une loi, on croit, bah tiens, le problème est résolu. Les désobéisseurs, ils disent, non, il y a une loi, d'accord, mais cette légitimité, on peut la contester.
Juste une petite question sur votre formule, la transparence est l'ennemi de la démocratie. J'ai pas bien compris ça.
Oh. Moi, je déteste trop monopoliser la parole, parce que je parle sans arrêt, donc... Comment résoudre? C'est simplement la question, c'est il suffit de regarder techniquement à quoi ça sert. Donc la transparence, c'est rendre les choses du politique objectives. Ou les choses de la production objectives. La transparence, c'est on donne des chiffres et on sait exactement quel est. Ah oui, je reviens en arrière. La transparence, c'est deux choses. Soit on pense, parce que l'information, c'est deux choses. L'information, c'est ce qu'on croit que les journalistes font en donnant des nouvelles du monde. Donc ça, on dit. C'est l'information. C'est moi, j'ai des mauvaises ondes. Donc ça, on dit, ça c'est l'information. Et donc on dit, la transparence de l'information, c'est Wikileaks, enfin c'est... Voilà. On rend l'information aux citoyens. Mais il y a un autre usage du terme d'information qui est ce que les ordinateurs produisent. Donc les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes d'information dans les entreprises, c'est des systèmes de quantification qui essayent de détailler une activité de production en petits éléments dont on peut mesurer et calculer le coût pour abaisser le coût de production général. Je ne sais pas si vous voyez ça, vous savez les cadences, les objectifs qu'on donne aux gens. Donc il faut se placer dans la perspective du deuxième usage du terme d'information, c'est-à-dire ce que produisent les systèmes d'information qu'il y a dans les entreprises et dans les administrations d'État. Là se produit une transparence, c'est-à-dire on met en chiffres, on rend, entre guillemets, objectif le travail des agents, donc les professeurs, les juges, les magistrats, les enseignants, les chercheurs. On rend objectif leur travail. Pour rendre objectif leur travail, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens font, il faut mettre ça en chiffres. Et donc il y a des gens dans des métiers qui consistent à faire des algorithmes et à les rentrer dans les machines, et nous, on doit cocher des cases où on ne retrouve pas notre activité. Et donc on est dessaisi de la définition des variables, des paramètres qui produisent une information sur notre travail. Cette information, nous revenons après, puisqu'on nous impose maintenant des entretiens annuels, on va dire où sont vos objectifs. Et les objectifs qu'on nous donne, c'est les objectifs sur lesquels on ne travaille pas. C'est eux qui ont inventé les objectifs qu'on devait remplir. Et donc si on n'est pas bon, on est viré. D'accord? On est incompétent. Et donc, cette transparence-là, cette production d'une objectivité des métiers d'après des catégories définies par les comptables, par les rapports d'audit, cette transparence tue la démocratie.
Oui, dernière question. Juste, moi je voudrais faire part de l'impression que j'ai vis-à-vis des mouvements. Par exemple, j'ai manifesté lors des mouvements pour les retraites. et j'étais triste. J'étais triste et je savais que ça ne pourrait que déboucher sur un échec et une soumission. Parce que justement, il n'y avait aucune détermination chez les gens qui, à 18 heures, partaient parce qu'ils avaient peur de la castagne. Le mouvement que tu nous as présenté, Benjamin, me réjouit parce que justement, il est à la fois intelligent puisqu'il comprend que le rapport de force ne permet pas de s'appuyer sur la violence comme en 1917, où là, c'était la violence qui conduisait à la victoire. Et c'est un mouvement intelligent parce que justement, il arme les citoyens. Parce qu'on ne peut créer la détermination que quand on y met un petit peu de ventre. Et la non-violence est en fait très violente à l'égard de celui qui la porte, qui la pratique. Et donc, cette non-violence et cette désobéissance civile, qui est en fait un objectif, un travail à faire sur soi et collectivement, eh bien, créera la détermination. Et donc, c'est totalement à l'opposé, ce type de manifestation, de ce que nous avons malheureusement pu vivre dans ces temps peu glorieux qu'étaient ceux que les syndicats animaient derrière leurs banderoles lors des manifestations, entre autres, sur les retraites.
Je voudrais répondre ici et là. Comment durer ? Parce que la question, en fait, c'était ça. C'était une réponse à durer, c'est important, et comment durer ? Et Hubert apporte un élément. C'est montrer, partager, propager ce qu'on a au fond de nous, qui est la détermination. C'est un des éléments, mais il est insuffisant. Pourquoi est-ce qu'il est insuffisant ? Parce qu'en fait, lorsqu'on est déterminé, et qu'on a une force, hein, c'est comme les piles des micros, une certaine durée, et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Il y en a qui sont improbables, mais ils sont rares. Et donc, ça risque de s'essouffler. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des nouvelles forces qui viennent. Comment faire venir de nouvelles forces ? Soit, si on est dans une corporation, avec un combat donné, avec des éléments internes, en réussissant à trouver des stratégies de conviction et de propagation et de communication à l'intérieur. Soit, et à mon avis c'est la réponse, par la convergence. C'est-à-dire qu'aucun mouvement, aujourd'hui, aucun mouvement ne peut gagner. Les profs vont perdre et ils vont se faire massacrer, les élèves vont perdre et ils vont se faire massacrer, les anti-machins vont perdre et ils vont se faire massacrer, les gens qui ne veulent pas fermer leurs usines vont perdre, les gens sur le combat sur les retraites vont perdre, etc. Pourquoi ? Parce que c'est la stratégie. On vous met un gros choc dans la tête. On le met sur tous les fronts, on essaye de se battre sur chacun des fronts, et on se disperse, et on a une incapacité à gagner. Donc il faut prendre conscience que pour installer un rapport de force, interpeller, médiatiser, ne suffit plus. Il faut converger et faire un rapport de force gagnant. Et comment on fait ? Eh bien, on trouve des lieux. Nous, on en est un, les indignés, c'en est un. C'est un lieu de convergence où des gens vont venir avec leur propre revendication, leur propre indignation, leur propre manière de procéder et de travailler, et vont pouvoir construire quelque chose. Mais ça peut être d'autres lieux, ça peut être une intersyndicale, ça peut être des comités de grève populaire, ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut prendre conscience de la nécessité absolue de converger et de propager cette détermination. Et c'est pas converger pour faire des temps forts tous les mois. Hein, et puis après, on se retrouve au bout de 6 mois complètement épuisé, on a fait 25 temps forts, et puis c'est plus la peine. Non, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on inscrive le mouvement dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous.